Alors ce soir, nous serons accompagnés spécialement par deux figures. D'abord celle de Saint Jean Castien, où je ne m'intéresserai pas tant à sa vie qu'à ses œuvres, puisque c'est lui qui va nous guider à travers ses écrits, à la découverte des pères du désert. Et puis la figure d'Antoine le Grand, surnommé par la tradition le père des moines, même s'il n'était pas le premier. Mais en fait, c'est lui que la tradition a gardé comme figure emblématique des débuts du monachisme. Donc la semaine dernière, nous avions terminé notre rencontre à travers un texte de Saint Ignace d'Antioche, qui était sur la route du martyr, de cet ultime témoignage qu'il devait rendre à Rome. Et donc on avait vu que dans les premiers siècles du christianisme, au moment où le christianisme n'était pas encore la religion acceptée, la religion de l'Empire, eh bien, demander le baptême, vivre en chrétien, c'était prendre en toute connaissance de cause le risque du martyr. C'était savoir que on pouvait être appelé à verser son sang pour le Christ à une époque où les persécutions n'étaient pas rares. Et même si on n'était pas martyrisé, c'était en tout cas s'engager à vivre une vie en sept contrats avec le paganisme ambiant, une vie donc séparée et opposée à l'hostilité du monde. Au IVe siècle, au début du IVe siècle, 312-313, un tournant très important, l'empereur Constantin à l'époque demande le baptême et avec lui c'est tout l'Empire qui devient chrétien. Et donc l'Église va devenir là finalement, va être acceptée, honorée, alors qu'elle était rejetée et que les chrétiens risquaient le martyr lors des fréquentes persécutions. Eh bien l'Église acquiert droit de cité, les persécutions cessent et les chrétiens n'ont plus besoin ni de se cacher pour vivre leur vie chrétienne, ni de se méfier. Donc un changement capital pour l'Église, mais en même temps un changement donc positif évidemment, mais qui va entraîner avec lui un autre péril aussi grave et peut-être plus que celui des persécutions. Cet autre péril, c'est que l'Église, qui jusque-là était en butte aux moqueries et à l'hostilité du monde, et bien maintenant qu'elle est honorée et reconnue, elle commence à s'installer, à s'enrichir, parfois à faire alliance avec le monde. Et donc l'autre péril qui menace, ce ne sont plus les persécutions extérieures, mais c'est une baisse progressive de ferveur. Il n'y a plus besoin d'être un héros pour être chrétien. Enfin, je dis les choses de manière assez schématique, assez brève. Mais donc c'est le risque de perdre cet aspect pèlerin de la vie chrétienne et de s'installer et de se trouver bien dans le monde et finalement d'en apprécier les honneurs et les richesses. Et donc parallèlement à ce changement de statut de l'Église qui a lieu au IVe siècle, eh bien un autre phénomène mérite toute notre attention, c'est ce qui va nous intéresser ce soir. Eh bien c'est le départ au désert de chrétiens de plus en plus nombreux. Alors certains évidemment partaient déjà au désert au IIe, IIIe siècle, on n'a pas attendu la conversion de Constantin. Certains partaient, disent les historiens, par peur des persécutions. Certains partaient par désir d'une vie fervente, radicalement consacrée à Dieu dans l'ascèse, la solitude, la prière continuelle. Mais au IVe siècle, quand l'Église acquiert droit de cité, quand les persécutions cessent, bien les départs au désert ne cessent pas, ils ne font que se multiplier. Et ce sont des foules entières de chrétiens qui partent maintenant au désert. Et donc là, on sait que ça n'est plus, ça c'est certain, pour fuir d'éventuelles menaces, mais c'est vraiment dans le désir, justement, de répondre à ce péril qui menace déjà l'Église de s'installer dans le monde. Et donc c'est pour maintenir au christianisme toute sa radicalité évangélique, toute sa ferveur, en particulier sa pauvreté, sa condition pèlerine sur la terre, que des chrétiens par dizaines, par centaines et par milliers vont partir au désert. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces déserts ? On a tous peut-être lu, partagé telle ou telle lecture sur les apophthegmes des pères du désert. On connaît ces sentences bien frappées, ces petites histoires des pères du désert qui à la fois nous réjouissent, nous amusent, nous édifient, nous terrifient aussi quand on voit l'austérité des pénitences, des jeûnes de ces pères du désert. Donc c'est un petit peu ce monde-là qu'on va découvrir ce soir, à travers notamment la thématique, parce qu'il faut bien en choisir une, hein, du discernement des esprits et du combat spirituel. Alors, pour commencer ce carême, vous voyez, c'est un thème tout à fait approprié. Donc très vite, à partir du 4e siècle, quand ces départs au désert se font de plus en plus nombreux, eh bien la figure de l'ascète va finalement se présenter comme un équivalent, un remplacement, entre guillemets, de la figure du martyr. Au martyr sanglant succède le martyr non sanglant, un martyr aussi long que la vie de ces ascètes du désert. Ils sont finalement considérés assez vite comme des martyrs volontaires, hein, des gens qui renoncent à leurs biens, à fonder une famille, à leur volonté propre, hein, pour se donner entièrement à Dieu dans une vie extrêmement dépouillée. Alors c'est le cas donc de ce Jean Cassien dont on va découvrir la figure ce soir. Jean Cassien, il naît vers 360 dans une famille chrétienne aisée et dans l'actuelle Roumanie. Donc à ce moment-là, c'est un lieu qui est un carrefour entre le monde latin et le monde grec. Donc Jean Cassien hérite d'une double culture. Il va à la fois, déjà de par son origine familiale, mais de par son expérience de vie, il va partager pendant des années et des années la vie des moines en Palestine, puis en Égypte, puis au désert de Sété. Et ensuite, fort de toute cette expérience monastique, anachorétique, orientale, et fort de sa double culture, il va, alors je vous passe les détails historiques parce que ça serait, c'est pas l'objet de ce soir, même si ça serait intéressant. Bon, je vous le dis quand même en bref. Vers l'année 400, des querelles anti-origénistes font que les moines de Sété sont obligés de se disperser. L'archevêque d'Alexandrie les expulse. Et donc, Jean Cassien, qui à ce moment-là est dans cette communauté des moines de Sété, rejoint Jean Chrysostome. Finalement, Jean Chrysostome est exilé lui-même en 403. Et donc, Jean Cassien va partir à Rome voir le pape pour prendre la défense de Jean Chrysostome. Donc, c'est comme ça que Cassien se retrouve en Occident. On perd sa trace pendant quelques années et on le retrouve en 415 en Gaule, en Provence, où le monachisme est en plein essor. Saint Honorat vient de fonder le monastère de Lérins. Les îles d'hier se peuplent de moines, et Cassien lui-même va fonder deux monastères à Marseille. Et puis voilà que l'évêque d'Apt, en Provence, demande à Cassien de partager son expérience extrêmement riche du monachisme oriental, et donc d'écrire à l'intention des moines d'Occident ce qu'il a vécu et découvert en Orient. Et donc Jean Cassien va écrire deux ouvrages qui vont figurer par la suite dans toutes les bibliothèques monastiques, et auxquelles saint Benoît se réfère. Le premier ouvrage s'appelle « Les institutions cénobitiques ». Alors il regarde toutes les dimensions de la vie cénobitique, de la vie monastique, la question de l'organisation, de la liturgie, de l'habit, du jeûne, etc. Et puis un autre ouvrage qui s'appelle « Les conférences ». Les collationes, conférences en français, ça fait très magistral. En fait, le titre latin, puisque Cassien écrit en latin, puisqu'il s'adresse aux moines d'Occident, collationes, c'est des collections. Donc, c'est des conférences dans lesquelles il se met en scène lui-même à l'école des anciens auprès de qui il a vécu. Donc, vous avez, par exemple, les premières conférences, c'est un entretien de Cassien et de son ami Germain avec Abba, ses pères, l'ancien, avec Abba Moïse. Et puis, vous avez comme ça, une vingtaine de conférences dans lesquelles donc Jean Cassien fait parler différents anciens des pères du désert sur les thèmes essentiels de la spiritualité monastique. Voilà, ça, c'est pour vous planter le décor, hein. Donc, conférence pour collationes, des collections d'enseignements, si vous voulez. Alors, dans les deux premières conférences où il fait parler Abba Moïse, Cassien s'intéresse d'abord, c'est tout à fait ordonné comme propos, il s'intéresse à la finalité de la vie monastique. En vue de quoi on devient moine. Je dis moine au sens, pas forcément envoyé d'un moine dans un monastère, mais moine au sens de solitaire, hein, de celui qui part vivre au désert dans la solitude. En vue de quoi on devient moine? Quelle est la finalité ultime de cette vie? Et puis Cassien va faire une petite distinction, il dit il y a la fin, la finalité, comprenez la finalité dernière, ultime, le royaume des cieux. Et puis il y a le but. Pour nous, but et fin, c'est un peu la même chose. Mais Cassien consacre la première conférence à cette distinction. Il dit le but, la fin, c'est la fin ultime, dernière, le royaume des cieux. Le but, c'est ce qui va me permettre d'atteindre cette fin. Et les moyens, c'est ceux qui vont me permettre d'atteindre le but. Alors je vais prendre un exemple très concret, puisque c'est ce que Jean Cassien fait. Il regarde le laboureur. Cassien va dire, la finalité du laboureur, c'est de vivre dans l'abondance de ses bonnes récoltes. Ça, finalité ultime. Le but, c'est donc d'obtenir un champ qualitatif, capable de produire ses bonnes récoltes. Et donc les moyens que va prendre le laboureur pour obtenir un champ qui va donner de bonnes récoltes, c'est de désherber, de labourer, d'irriguer son champ, de prendre soin de toutes ses semailles pour obtenir ses bonnes récoltes. Donc vous voyez, moyen, but, fin. Et bien Cassien applique ça à la vie monastique et il va dire la fin, c'est le royaume des cieux, la béatitude si vous voulez, le but qui va nous permettre d'atteindre cette fin. Alors c'est ce que certains avant lui, comme Évagre, un nom que vous avez peut-être entendu, un grand classique là aussi des Pères du désert qui a vécu un petit peu avant Cassien, Évagre appelait ça l'apatheia, apathos, apathène, sans passion, sans pâtir, si on traduit littéralement. Cassien va éviter soigneusement ce terme qui à l'époque était assez controversé, qui était mal compris. Et Cassien va dire le but, c'est la pureté du cœur. Mais là aussi, il faut bien comprendre. Qu'est-ce que c'est qu'un cœur pur? C'est un cœur qui n'est pas partagé. Un cœur dans lequel ne règne que le Christ, que la charité du Christ. Et donc un cœur, et là il rejoint l'apatheia des vagues, un cœur qui est insensible, invulnérable à toute passion mauvaise. Le cœur pur, c'est celui qui ne laisse entrer en lui que des pensées conformes à la charité du Christ et qui rejette toute passion mauvaise. Et donc le moine, l'ascète, le solitaire, va s'efforcer d'orienter chaque jour ses pensées, ses actions, ses efforts vers le Christ et de ne jamais laisser le mal, les pensées mauvaises prendre racine dans son cœur. Et c'est là qu'intervient la question du discernement. Finalité ultime, la béatitude, le royaume des cieux, le but, la pureté du cœur, pour être uni au Christ, et le moyen pour atteindre ce but, être capable de discerner, d'éprouver, parmi toutes les pensées qui se pressent aux portes de notre âme, d'être capable d'éprouver l'origine de ces pensées. Alors on y reviendra évidemment avec Ignace de Loyola. Vous allez, dans tout ce que je vais vous dire ce soir, vous allez reconnaître bien des aspects qui seront développés par Ignace de Loyola et la Compagnie de Jésus. Donc gardez ça en mémoire. Cassien va dire, je le cite littéralement, que nos pensées peuvent avoir une triple origine, Dieu, le démon et nous-mêmes. Ça vous rappelle quelque chose pour ceux qui sont familiers de cette maison, peut-être. Et donc, pour Jean Cassien, la vertu essentielle, il l'appelle la mère et la gardienne de toutes les vertus, le gouvernail de notre vie, l'œil et la lampe du corps, et tout ça, ce sont des expressions de Cassien. C'est le discernement des esprits. Alors, une expression qu'il emploie lui-même à saint Paul, parce qu'on la trouve dans la première épître aux Corinthiens, je vous ai mis ça au tableau, dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 12, quand saint Paul s'interroge sur les différents dons de l'Esprit, donc c'est les versets 4 à 10, 4 à 11, il y a certes répartition de dons, mais c'est le même Esprit, répartition de services, mais c'est le même Seigneur. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit. À l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à l'autre une parole de science, selon le même Esprit, à un autre la foi, à tel autre le don de guérison, etc. À un autre, le discernement des esprits. Un diacrisis pneumaton, le discernement des esprits. En latin, Cassien écrit la discrétio. Alors en français, discrétion, ça a des sens très divers, donc ça ne veut pas dire grand-chose. C'est la discrétio, c'est cette capacité à discerner parmi nos pensées celles qui viennent de l'Esprit Saint et celles qui viennent d'un autre esprit. Alors, pour Cassien, c'est essentiel parce que il n'y a pas possibilité dans notre âme de cohabitation entre le règne du Christ et le règne du démon. Nous donnons notre cœur soit au Christ, soit au démon. Et donc, il faut appliquer ce que Cassien appelle une discrétio sagace, un discernement fin, subtil, à toutes nos pensées pour en discerner l'origine et savoir si on doit les accueillir ou au contraire lutter contre elles. Alors, pour réaliser ce discernement, comment faut-il s'y prendre ? Cassien, j'aime bien lire Cassien parce qu'il y a beaucoup d'images, des exemples très, très imagés, donc on va en voir quelques-uns ce soir. La première image, c'est celle des changeurs de monnaie. Alors, Cassien se réfère à un agraphone, c'est-à-dire une parole de Jésus dont on n'a pas trace dans l'Évangile, une parole non écrite, agraphone non écrite, mais véhiculée par la tradition orale. Donc il dit, comme le Seigneur lui-même nous l'a dit, nous y a exhorté, soyez d'habiles changeurs. Alors on n'a pas ça dans l'Évangile, mais ça fait partie de ce que les exégètes considèrent comme une des paroles non écrites les plus probablement authentiques. Alors, de quoi s'agit-il ? Évidemment, il faut se représenter ce que c'était que le métier de changeur à l'époque de Jésus à Jérusalem, une ville dans laquelle plusieurs monnaies circulaient, d'abord la monnaie romaine, la monnaie grecque, la monnaie du temple, parce que les Juifs étaient tenus d'acquitter la taxe du temple dans une monnaie particulière, et puis surtout, il y avait tous ces multiples pèlerins qui affluaient de leur pays ou région respective avec leur propre argent, qui arrivaient à Jérusalem et qui voulaient changer leur argent dans la monnaie locale. Donc vous aviez dans les souks quantité de changeurs qui étaient avec leur petite table devant eux, très certainement avec une petite plaque de verre, comme aujourd'hui, et qui faisaient résonner les pièces qu'on leur apportait sur leur plaque de verre et qui y appliquaient un discernement le plus fin possible pour repérer les fausses pièces et les vraies. Et Cassien va développer cet exemple pour nous montrer comment discerner l'origine de nos pensées. Alors vous avez ce premier petit texte sur la feuille de route. Cassien va repérer quatre formes de contrefaçon de la monnaie. L'habileté, donc première manière de falsifier la monnaie. L'habileté et la science des changeurs triomphent à discerner l'or parfaitement pur et celui qui n'a pas subi au même degré l'épreuve du creuset. Qu'un vil denier de cuivre essaie d'imiter la monnaie précieuse en se couvrant des apparences et de l'éclat de l'or, leur œil exercé n'y sera point trompé. Vous voyez, ça c'est la première manière pour une monnaie d'être fausse, c'est si son métal n'est pas de l'or ou si son or n'est pas complètement pur. Donc la matière même de la pièce n'est pas pure. Deuxième contrefaçon, ils savent reconnaître les pièces portant effigie de tyran. Ah oui, vous avez des pièces, elles sont bien en or, mais c'est bizarre, elles ne portent pas l'effigie royale. troisième manière, je vais expliquer après l'analogie avec la vie spirituelle. Hein. Troisième manière, leur sagacité va plus loin encore. Ils discernent les pièces qui, marquées à l'empreinte ou à l'effigie du roi légitime, ne sont pourtant qu'une contrefaçon. Alors là, c'est pas expliqué dans ce petit extrait, mais il l'explique plus loin. C'est-à-dire des pièces, elles sont bien en or, elles portent bien l'effigie légitime du roi, mais elles ne portent pas le poinçon de l'atelier d'origine. Hein, elles sont bien faites, mais elles ne proviennent pas de l'atelier. Et puis enfin, quatrième contrefaçon, il recourt à l'épreuve de la balance pour voir si rien ne manque du juste poids. Ça, on sait, hein, les historiens savent très bien ça, qu'à l'époque, quand les pièces étaient déjà en circulation, eh bien certains essayaient de rogner, de récupérer un petit peu de métal, hein, en rognant les pièces, surtout quand c'était des pièces en or, évidemment. Et donc, on se retrouvait avec des pièces qui étaient de plus en plus légères en circulation. Et donc, ça faisait aussi partie des choses que le changeur devait regarder de près, hein, discerner si ces pièces sont trop légères. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quant au discernement spirituel ? Ceux qui veulent le texte complet, hein, je vous renvoie à la conférence, la première conférence de Jean Cassien, où il développe cette comparaison. Là, je ne vous ai mis que le début, hein, mais après, il développe ça. Donc, première contrefaçon, une pièce dont le métal n'est pas pur. Hein, c'est de l'or, pas tout à fait purifié, ou c'est un autre métal que de l'or. Cassien dit, il y a des pensées qui ne sont pas entièrement purifiées, qui ne sont pas entièrement chrétiennes, évangéliques, si vous voulez. Elles sont encore mêlées alors, de ce qu'il appelle la superstition juive, ou bien des maximes des philosophes, vous voyez, tout ça étant à prendre au sens le plus péjoratif du mot, évidemment. Et donc, ce sont des pensées qui peuvent avoir une apparence de bien fondé, même de piété, mais qui sont trompeuses parce qu'elles risquent de réattirer le moine au monde, hein, voire dans l'hérésie. Deuxième contrefaçon, les pièces qui sont bien en or pur, mais qui ne portent pas l'effigie royale. Alors, de quoi s'agit-il ? Bien, Cassien dit, il y a des pensées qui impriment, donc là je le cite, hein, qui imprime sur l'or très précieux des Écritures un sens hérétique et vicieux. On pense évidemment aux démons utilisant la parole de Dieu, déjà dans la Genèse, hein, le serpent. Alors Dieu a dit, et puis surtout les tentations de Jésus au désert, hein, où Satan s'adresse à lui en utilisant la parole de Dieu, donc l'or pur des Écritures, mais en imprimant à cet or pur une effigie qui détourne l'or pur de l'écriture de son sens originel. Donc une perversion du sens de la parole. Et donc on utilise la parole de Dieu, mais finalement pour lui faire dire exactement l'inverse, ou en tout cas autre chose que son sens initial. La troisième contrefaçon, la pièce est en or, parfaitement purifiée, la parole de Dieu. L'effigie est celle du roi légitime, mais il n'y a pas le poinçon de l'atelier d'origine. Alors, pour Cassien, ces pensées-là, elles sont particulièrement dangereuses parce que justement, elles prennent apparemment tous les dehors de bonnes pensées. Le démon va suggérer aux moines des actes apparemment charitables, des jeûnes, des actes d'ascèse, des œuvres de charité, mais qui vont être, si elles sont réalisées sans discernement, c'est-à-dire sans le poinçon qui est la tradition des anciens, c'est-à-dire sans l'obéissance, si vous voulez, hein, eh bien risquent de faire tomber le moine. Alors, Cassien prend des exemples tout à fait parlants. Par exemple, pour obliger le moine à quitter sa cellule. Hein. Le démon nous persuade encore, pour un motif de charité, de faire des visites. Mais c'est par charité, vous comprenez. Ben oui, mais le moine quitte sa cellule. Il nous persuade de faire des visites afin de nous tirer hors de la clôture très sainte du monastère, bien il nous suggère de nous charger du soin de femmes consacrées à Dieu et sans appui, à dessein de nous engager en des liens inextricables et de nous distraire par mille soucis pernicieux. Ou bien il nous pousse à désirer les saintes fonctions de la cléricature, sous prétexte d'édifier beaucoup d'âmes et de faire à Dieu des conquêtes, mais afin de nous arracher par ce moyen à l'humilité et à l'austérité de notre vie. Oui, donc des œuvres bonnes, et donc celui qui n'a pas le souci de vivre ces œuvres-là dans la tradition des anciens, dans l'obéissance à un ancien, risque, sous prétexte d'œuvres bonnes, eh ben, de déchoir dans sa vocation. Et puis enfin, la pièce trop légère, hein, celle qui a été rognée. Eh bien, Cassien dit là aussi, il y a des projets apparemment louables, mais qui s'avèrent légers au sens où ils sont portés par un esprit de vaine gloire. Vous voyez, une sorte de désir d'ostentation, d'originalité présomptueuse, d'orgueil, de vanité. Alors ça, c'est les pensées trop légères. Alors c'est surtout pendant les premières années, même s'il ne faut pas bloquer ça en des phases successives de manière absolue, mais c'est surtout pendant les premières années que le diable s'y prend de cette manière-là pour tromper les jeunes moines. C'est-à-dire qu'il agit à couvert, comme un faussaire, dissimulé, en présentant des choses apparemment bonnes, parce que évidemment, s'il nous présente de manière directe un mal, on ne céderait pas à la tentation si la tentation nous apparaissait comme un mal, bien sûr. Donc le démon, comme un bon faussaire, bon, vous comprenez dans quel sens, hein, comme un faussaire expert, eh bien, nous présente comme bonnes des pensées qui vont nous faire tomber. Je dis nous parce que c'est valable évidemment pas seulement pour les pères du désert de l'époque, mais pour les chrétiens que nous sommes aujourd'hui. Et donc c'est pendant les premières années que le démon fait ça. On en a un bel exemple chez Antoine, justement, hein, père des moines. Antoine, il était né en 251, et vers 270, il entend, lors d'une lecture de l'évangile à l'église, cet appel du Christ, hein, « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens, suis-moi. » Et Antoine prend cette parole à la lettre, il la reçoit pour lui, il distribue ses biens, il se charge de subvenir aux besoins de sa jeune sœur orpheline, donc il garde une part de l'argent pour elle, il s'occupe de trouver un monastère qui pourra s'occuper de sa jeune sœur, et il part. Et puis voilà que, après quelque temps, le démon commence à tenter Antoine. Et comment le démon s'y prend-il ? Eh bien, il lui rappelle une parole de l'Écriture, de la première lettre à Timothée, donc l'or pur des Écritures, 1 Timothée 5,8. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, surtout de ceux qui vivent avec lui, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Ah ! Et voilà Antoine qui se souvient de sa sœur. Il avait pourvu à ses besoins, mais enfin, malgré tout, que va-t-elle devenir sans moi ? J'ai pas été jusqu'au bout responsable de... Je n'ai pas été charitable, je suis pire qu'un infidèle. Et voilà qu'à partir d'une parole de l'Écriture, le démon commence à faire douter Antoine de sa vocation et à faire ressurgir en lui d'autres désirs. Ah, après tout, une vie familiale. Et puis comment je vais pouvoir aider ma sœur si je reste dans cet état de pauvreté volontaire, etc. Vous voyez donc, le faussaire, hein, le faussaire qui se sert d'une parole de Dieu pour détourner le moine de sa vocation. Après cette phase de discernement sur nos pensées, hein, par qui sont-elles inspirées, et ben quand on reconnaît que certaines pensées ne viennent pas du bon esprit, hein, ben il va falloir combattre, parce qu'il ne suffit pas d'avoir discerné. Il va aussi falloir combattre, il va falloir lutter. Alors, Cassien va prendre une deuxième image. Après celle des habiles changeurs, c'est l'image du gladiateur. Et c'est des images fortes pour l'époque. Hein. Évidemment, pour nous, les gladiateurs, ça fait un peu film de cinéma. Mais à l'époque, hein, on sait ce que c'est qu'un gladiateur. Et des chrétiens ont vraiment donné leur vie, sont morts sous la dent des bêtes. Donc ce sont des images extrêmement parlantes. Donc, dans son livre qui s'appelle « Les institutions cénobitiques », Cassien va consacrer 8 livres, 8 chapitres, si vous voulez, aux 8 vices principaux que je vous ai rappelés au tableau, et qu'Évagre le Pontique, donc un autre père du désert, avait déjà analysé avant lui. Donc Cassien ne fait que reprendre ça, et il dit il faut déjà reconnaître la nature de chacun de ses vices, de chacune de ses tentations, mais il faut aller encore plus loin. Et ça, c'est encore la vertu de discernement qui va nous apprendre, pas seulement à discerner les bonnes des mauvaises pensées, mais à savoir comment combattre, quels vices combattre en premier, quelle stratégie adopter. Vous voyez, c'est un vocabulaire militaire, là, c'est le gladiateur, c'est la stratégie du combat, c'est les armes à employer, donc un tout autre registre que celui des changeurs de monnaie. Et donc Évagre avait déjà dressé une liste que Cassien reprend des 8 vices principaux, les huit tentations, les 8 domaines dans lesquels le chrétien peut être particulièrement assailli. Donc la gastrimargie, qu'est-ce que c'est que la gastrimargie? Ceux qui ont fait un peu de grec. La gourmandise. Gastro, c'est l'estomac. Donc la gastrimargie, la gourmandise. La fornication, l'esprit de luxure, toutes les tentations contre la chasteté. La philargyrie, là encore les hellénistes vont nous aider. Philargyrie. Argurion, c'est l'argent. Philargyrie, c'est l'amour de l'argent. Et ça, ce sont des tentations qui sont de tous les temps. La colère, la tristesse, l'acédie. Donc l'acédie, c'est le dégoût du cœur, le dégoût des choses de Dieu. Et puis la cénodoxie, la vaine gloire, tout à fait. Et enfin l'orgueil. Vaine gloire ou vanité. Voilà. Et donc Cassien va comparer ses vices à des bêtes sauvages, comme les différentes bêtes qui peuvent être dans une arène. Vous pouvez avoir, je ne sais pas moi, des... Qu'est-ce que vous avez dans une arène, à part les lions? Des tigres, des lions, des taureaux, différents assaillants contre le gladiateur. Et ces vices, ils sont comme des bêtes. Et il y a une stratégie à adopter pour les combattre dans le bon ordre, selon qu'on a reconnu qu'ils étaient plus ou moins dangereux pour notre âme. Ce qui est sûr pour Cassien, c'est que ces 8 vices, ou ces 8 bêtes, nous font toute la guerre, à chacun d'entre nous. Mais leurs attaques ne se présentent pas indistinctement chez tous de la même manière. Certains vont être plus vulnérables à la gastrimargie, d'autres à la cénodoxie, d'autres à la philargyrie. Donc on est plus ou moins sujet à tel ou tel type de péché, ou de tentation, ou de vice. Et donc la première chose, c'est de bien se connaître pour savoir par où le démon nous attaque. Et quand on a reconnu les bêtes, les vices, qui nous menacent le plus, alors là, c'est là que Cassien développe l'image du gladiateur. Il dit, le gladiateur, il doit s'attaquer en premier aux bêtes les plus méchantes, les plus dangereuses. Parce que quand il aura remporté la victoire sur la bête la plus féroce, il pourra ensuite s'attaquer aux bêtes les moins dangereuses. Alors, je vous ai mis un passage là aussi, pour que vous voyez un petit peu le style de Cassien. Que chacun, après avoir reconnu le vice qui le sert de plus près, donc le plus menaçant, le plus dangereux pour sa vocation, institue de ce côté principalement le combat et observe avec toute l'attention et la sollicitude dont il est capable ses démarches offensives. Que l'on sonde alors de rechef du même regard attentif les secrets des tours du cœur afin d'élire ou de discerner parmi les autres vices celui que l'on reconnaîtra pour être le plus terrible et que l'on mette en branle contre lui plus spécialement toutes les armes de l'esprit. Après avoir toujours de la sorte surmonté les plus redoutables, on aura vite et facilement raison des autres. L'âme voit grandir sa force avec ses triomphes, Et devant des adversaires de plus en plus faibles, la lutte se change aussitôt pour elle en victoire. Ainsi en agissent les gladiateurs. Par une semblable méthode, étouffons premièrement les passions les plus fortes pour en venir graduellement aux plus faibles. Et nous obtenons, sans courir le moindre danger, une victoire complète. C'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Mais c'est toute une stratégie, vous voyez, de combat, pas seulement de défense, mais d'attaque, hein, que Cassien va déployer. Et j'insiste sur ce point-là parce qu'on le voit aussi dans la vie d'Antoine. Hein, donc, première étape de sa vie monastique où le démon agissait comme un faussaire, dissimulé. Deuxième étape de sa vocation, hein, quand le démon s'avoue vaincu sur le premier registre, eh bien, il va agir maintenant à découvert. Hein, et donc on voit notamment dans la vie d'Antoine telle qu'elle est écrite par saint Athanase, un aspect très, très, très imagé, très folklorique, hein, le démon qui s'attaque à lui sous forme d'hallucinations effrayantes, de sévices corporels, de visions de bêtes monstrueuses, etc. Donc c'est là aussi un peu l'image du combat du gladiateur. Et Antoine ne va plus se contenter de discerner les attaques du démon dissimulé, mais il va aller provoquer le démon chez lui. C'est une deuxième étape dans la vie d'Antoine, alors qu'au point de départ, il menait déjà une vie solitaire, ascétique, mais seulement en marge de son village. Maintenant, Antoine part au désert, il s'enfonce au désert, dans la solitude. Il va d'abord vivre dans une sorte de sépulcre, de tombeau, et puis ensuite, encore plus avant dans le désert, pendant 20 années, il va vivre dans un fortin abandonné. Quel est le symbole de ça? Les sépulcres, c'est le lieu de l'apparente victoire de la mort. Donc c'est un lieu où le démon se croit chez lui. Et donc Antoine part vivre dans un sépulcre, symboliquement ça veut dire il va provoquer le démon chez lui. Il ne se contente plus de résister aux attaques, il prend les devants, hein, il a l'initiative, c'est une stratégie de combat. Et puis ensuite il part encore plus dans la solitude du désert. Pourquoi? Et bien comme Jésus, hein, poussé par l'esprit au désert pour y être tenté par Satan, parce que le désert aussi, c'est le lieu non humanisé de la création, donc c'est le lieu où le démon se croit chez lui. Vous voyez, c'est symbolique tout ça. Hein. Les sépulcres et le désert, ce sont les deux lieux où le démon se croit victorieux et où Antoine va aller le déloger. Hein. Donc première image, le changeur de monnaie. Deuxième image, le gladiateur, vous voyez, c'est déjà deux aspects de la vertu de discernement des esprits. Hein. Discerner l'origine de nos pensées, discerner quelle stratégie adopter selon qu'on est plus ou moins sujet à tel ou tel type d'attaque ou de tentation. Troisième aspect de cette vertu de discrétio, hein, de discernement des esprits, c'est une autre image, a priori beaucoup plus pacifique cette fois, hein. Cassien évoque l'histoire du peuple d'Israël quand ils sont dans leur longue marche vers la terre promise, et à un moment, donc c'est presque, ils arrivent en vue de la terre promise, mais ils ont encore quelques territoires à traverser qui sont habités, évidemment. Hein. Donc vous avez ça dans le livre des Nombres au chapitre 20 et 21. Moïse envoie des messagers au roi d'Édom, et il lui demande « Laisse-nous traverser ton pays, on ne mangera pas tes fruits, on ne grappillera pas dans tes vignes, on ne boira pas ton eau, laisse-nous traverser par la voie royale », c'est-à-dire, on pense que c'était comme une grande piste, hein, que les caravanes ou les armées employaient pour traverser. Et Moïse dit « Laisse-nous, je te prie, passer par ton pays, nous irons par la voie royale sans dévier, ni à droite, ni à gauche, jusqu'à ce que nous ayons traversé ton territoire. » Et donc ils sont en marche vers la terre promise. Cassien va détailler longuement cette image de la marche sans dévier à droite ni à gauche sur la voie royale. Je vous ai mis aussi un extrait de texte intéressant, donc c'est toujours dans les premières conférences, hein, là c'est la deuxième. Abba Moïse, donc celui qui parle dans cette conférence-là, va dire combien nous avons vu de solitaires qui étaient mais édifiants. Hein. Ils se livraient aux jeûnes, aux veilles les plus rigoureuses. Ils provoquaient l'admiration par leur amour de la solitude. Ils vivaient dans un dépouillement absolu, etc. Ils remplissaient tous les devoirs de l'hospitalité. Puis soudain, ils sont tombés dans l'illusion. À l'œuvre entreprise, ils n'ont pas su donner son couronnement. Ils ont terminé la plus belle ferveur et une vie digne d'éloge par une fin abominable. L'absence de la seule discrétion, hein, donc cette vertu de discernement, fit que leurs œuvres ne purent persévérer jusqu'à la fin. On ne voit pas en effet d'autre cause à leur chute, sinon que, n'ayant pas eu la chance d'être formés par des anciens, ils ne purent acquérir cette vertu, laquelle, se tenant également éloignée des deux excès contraires, hein, donc à droite et à gauche, enseigne le moine à marcher toujours par une voie royale. Et ne lui permet de s'écarter ni à droite, dans une vertu sottement présomptueuse et une ferveur exagérée, qui passe les bornes de la juste tempérance, ni à gauche, vers le relâchement et le vice, et sous prétexte de bien régler le corps dans une paresseuse tiédeur de l'esprit. Donc vous voyez, c'est l'image du ni trop, ni trop peu. La vertu de discernement, de discrétio, c'est celle qui va nous aider à trouver aussi la juste mesure dans l'ascèse, par exemple, dans le jeûne, dans l'éveil, hein, dans la manière de vivre de ces solitaires du désert. Ni à droite ni à gauche, ça veut dire, dans l'esprit de Cassien, dans cette image, ni trop, ni trop peu. Alors on reconnaît là, hein, ceux qui ont un petit peu travaillé la philosophie grecque pensent tout de suite à Aristote, la vertu est un juste milieu, éviter les deux excès contraires, orthos logos. Hein. Alors, il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Hein. La référence de Cassien, elle est d'abord biblique. C'est l'image de la voie royale. Donc c'est pas seulement vivre une vie vertueuse, hein, ni trop ni trop peu, mais c'est avancer tout droit vers la terre promise. Il faut garder cette image biblique. L'idée de Cassien, c'est le moine est celui qui est déterminé vers la terre promise, qui est son but. Et c'est en vue de cette terre promise qu'il ne va s'écarter ni à droite ni à gauche et qu'il va régler son ascèse, ni trop ni trop peu. C'est pas pour avoir une vie vertueuse équilibrée, c'est pour atteindre la terre promise. Donc il faut tenir à la fois le but chrétien, et le moyen qui fait penser, hein, à cette définition de la vertu déjà développée par Aristote, par exemple, hein, par les stoïciens. Le chrétien, c'est un homme qui marche vers et qui est déterminé vers un but dont rien ne va le faire dévier. Hein. Donc, comme le peuple d'Israël, il ne s'agit pas de s'arrêter en route pour manger les fruits du pays. Non, il faut regarder vers la terre promise. Donc c'est l'image d'une marche vers Dieu. Donc ça, c'est ce qu'on développera le jeudi prochain avec Grégoire de Nice. L'image d'une vie chrétienne qui est une marche permanente en vue de la terre promise qu'est Dieu lui-même. Donc on reverra ça beaucoup plus en détail jeudi prochain. Et à l'intérieur de cette marche déterminée vers Dieu, alors, ni trop, ni trop peu. C'est intéressant, là encore, pour notre vie chrétienne, notre combat spirituel aujourd'hui. Pour Cassien, il est aussi dangereux de trop jeûner que de ne pas jeûner du tout. Pourquoi ? Parce que quand on ne jeûne pas du tout, qu'on est relâché, qu'on est paresseux, bon... On peut toujours avoir quelqu'un qui va nous éveiller un peu, nous secouer les puces, nous redonner un élan dans la ferveur. Tandis que quand on est engagé dans le trop, eh bien, il y a deux risques pour Cassien. Le premier risque, c'est celui de la présomption, hein, de viser la prouesse ascétique dans laquelle on risque finalement de s'enorgueillir. Et puis le deuxième risque, c'est justement d'avoir une vie tellement, tellement austère et ascétique que le moine en vient à être affaibli jusque dans son corps et donc finalement plus vulnérable à d'autres vices. Et Cassien dit, bah, c'est malin, si on perd par un jeûne excessif, une occasion de charité, parce qu'on est du coup tellement fragilisé qu'on va se mettre en colère contre son frère. Et donc c'est une sagesse spirituelle extrêmement fine. Cassien dit ça. Et en plus, rappelons-nous, hein, ils avaient une vie pour le coup très 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 austère. Hein. Quand on voit le menu alimentaire des pères du désert, ça n'a rien à voir avec nos carêmes d'aujourd'hui. Hein. Et pourtant, Cassien dit, voilà, attention à ne pas aller trop loin. Je ne dis pas heureusement. Alors Cassien dit ça. Si nous n'avons pu remplir, selon toute sa rigueur, notre programme accoutumé, il ne faut pas s'en attrister ou se mettre en colère. Car on gagne moins par un jeûne que l'on ne perd par un mouvement de colère. C'est sage, hein ? Une fidélité ponctuelle ne nous servira de rien si nous nous laissons ravir la chose principale, donc la charité, hein, en vue de quoi tout doit être accompli. Voilà, donc cette ascèse des pères, hein, aussi rigoureuse soit-elle, eh bien, elle n'est pas considérée comme un absolu. Donc il y a une mesure. Elle est toujours relative à la charité et à la contemplation. Il faut trouver la mesure qui me permettra d'être à la fois déterminé dans ma marche et à la fois de ne pas tomber ni dans la vanité, ni dans un affaiblissement tel que ben, je ne vais plus marcher du tout. Et cette mesure, hein, donc ce ni trop ni trop peu, eh bien, c'est la règle des anciens, c'est l'obéissance, c'est la remise de son jugement propre à un ancien, à un père spirituel ou à la tradition des anciens qui va permettre de la trouver. D'où la place capitale dans la sagesse monastique, mais aussi dans toute vie chrétienne, de la paternité spirituelle, de l'accompagnement spirituel, de remettre sa vie entre les mains d'un ancien qui a fait le chemin avant nous, qui a une expérience, une sagesse de vie chrétienne qui va nous éviter bien des pièges ou bien des déboires. Alors là aussi, on connaît beaucoup d'apophtegmes des pères sur le fait d'abdiquer entièrement son jugement propre ou sa volonté propre entre les mains d'un ancien. C'est parfois très absolu, hein. Mais ça nous dit quelque chose de cette acquisition du discernement, hein. Il faut commencer par abdiquer son discernement personnel en se mettant à l'école d'un ancien pour acquérir à son école le discernement. Et c'est très intéressant comme mouvement. Alors vous avez aussi un petit passage sur l'ouverture du cœur, hein. On enseigne aux débutants à ne cacher par fausse honte aucune des pensées qui leur rongent le cœur, mais dès qu'elles sont nées, à les manifester à l'ancien. Et pour en juger, à ne pas se fier à leur opinion personnelle, mais à croire mauvais ou bon ce que l'ancien, après examen, aura déclaré tel. De la sorte, l'ennemi rusé ne peut plus du tout circonvenir le jeune du fait de son inexpérience ou de son ignorance. Il n'a plus aucun moyen d'abuser celui qu'il voit s'appuyer sur le discernement de l'ancien, non sur le sien, et qu'il ne peut persuader de cacher à l'ancien ses suggestions, quelles qu'elles soient, qu'il jette dans son cœur comme des traits enflammés. Vous voyez, c'est l'ouverture du cœur comme arme. Oui, si vous confiez à l'ancien toutes vos pensées dès qu'elles naissent, si vous les remettez à son discernement, ben vous ne risquez plus de vous faire avoir par des pensées mauvaises suggérées par le démon. Le diable, si subtil, ne pourra pas jouer ou faire tomber le jeune autrement que s'il l'attire, par orgueil ou par respect humain, à cacher ses pensées. Les anciens affirment en effet que c'est un signe universel et évident d'une pensée diabolique que nous rougissions de la manifester à l'ancien. Une mauvaise pensée produite au grand jour perd aussitôt son venin. Ces suggestions pernicieuses n'ont sur nous d'empire qu'autant qu'elle demeure cachée au fond du cœur. Donc remise complète de ses pensées, de son jugement propre, et par le fait même obéissance, hein, une obéissance active, à tout ce que l'ancien demandera. La règle de l'obéissance, dit encore Cassien, est gardée avec une telle fidélité que les jeunes non seulement n'osent pas quitter la cellule sans que leur préposé ne le sache, ni n'y consente, mais ne présument même pas son autorisation pour satisfaire à leurs besoins naturels. Ils accomplissent avec empressement et sans aucune discussion, comme si cela venait de Dieu, tout ce qu'il leur aura prescrit, à tel point que parfois ils acceptent même des ordres impossibles, avec une foi et une dévotion si grandes qu'ils font tous leurs efforts pour les exécuter sans aucune hésitation du cœur. Par respect pour l'ancien, ils ne mesurent même pas l'impossibilité du commandement. Vous avez peut-être là aussi lu des apophthegmes ou des petites histoires où on voit un ancien qui prescrit à un jeune d'aller planter un bâton sec et d'aller l'arroser à 5 km de sa cellule tous les matins. Et le jeune ne se demande même pas si l'ordre est fondé ou non, il exécute promptement. Alors ne prenons pas ça, vous voyez, pour une obéissance infantilisante ou déresponsabilisante, mais comme un chemin de foi, comme un chemin de lutte contre le démon qui n'a plus aucune emprise sur moi, si j'ai pas de volonté propre, et comme un chemin d'éducation à l'humilité et à la foi. Se mettre à l'école d'un ancien, c'est une école d'acquisition de l'humilité, de la liberté du cœur, de la paix intérieure. Et il faut de nombreuses années, vous voyez, de cette école pour que le moine, petit à petit, devienne à son tour un ancien, un abat, quelqu'un qui va être capable de guider des plus jeunes dans les voies de l'esprit. Et cette dernière étape de la vie du moine, elle est comme le couronnement de cette acquisition lente, patiente, du discernement des esprits à l'école des anciens, et va faire que le moine qui a acquis pour lui-même cette discrétion va pouvoir engendrer d'autres à la vie de l'esprit. Donc devenir père spirituel au sens le plus fort qu'il faut donner à ce mot, devenir père de la vie de l'esprit dans l'âme d'un autre. Et là, c'est la dernière image que je voudrais regarder avec vous ce soir. C'est encore une image que Cassien emploie. C'est l'image de l'ambidextre. Vous savez tous ce que c'est qu'un ambidextre, Quelqu'un qui sait se servir des deux mains, de la main droite comme de la main gauche. Et c'est aussi une image qu'on trouve dans l'Écriture, dans le livre des Juges, au chapitre 3. Alors, ça disparaît parfois dans nos traductions, mais Cassien prend le terme au sens d'ambidextre. Vous avez un certain Ahot, ou Ehud, selon les traductions, qui est un Israélite de la tribu de Benjamin, suscité par Dieu pour sauver Israël de la main du roi de Moab. Et ce Ahot, il va tuer le roi de Moab, Eglon, par ruse, parce que il est ambidextre, donc là où l'autre ne l'attend pas, il saisit son poignard de la main gauche, et il va donc débarrasser Israël de ses ennemis comme ça. Alors dans nos traductions, ça disparaît parfois, parce qu'on traduit souvent par gaucher, plutôt que ambidextre, alors que l'idée principale de Cassien, c'est de dire que le moine parfait, celui qui a acquis le discernement, c'est celui qui sait se servir aussi bien de la main droite que de la main gauche, entendez, aussi bien de la santé que de la maladie, du bonheur que du malheur, du succès que de l'échec. Il sait se servir de tout pour son profit spirituel. Ça ne veut pas dire qu'il est indifférent à la maladie ou à la santé, ça ne veut pas dire qu'il est devenu insensible au malheur ou au bonheur, mais il sait faire tout concourir au progrès de son âme. C'est ça l'image de l'ambidextre. Je vous laisserai lire le petit extrait tout seul. Mais ça, c'est vraiment celui qui est arrivé au terme du chemin, vous voyez, qui est établi, qui est fondé sur le roc, uni au Christ, d'une manière telle que rien ne peut plus le séparer de Dieu. Ni la maladie, ni la santé. Dans la maladie, il ne désespère pas. dans la santé, il n'oublie pas Dieu. Hein. Alors vous avez des images comme ça très belles dans l'écriture. L'ambidextre parfait dans l'Ancien Testament, c'est Job. Hein. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Hein. En toute chose, même avec tous les malheurs qui lui tombent dessus, Job ne pécha point contre Dieu. Voilà un exemple d'ambidextre spirituel. Et puis, dans le Nouveau Testament, pensez à saint Paul. Hein. Je sais me contenter de peu, comme je sais être à l'aise en toute chose, voilà, hein. Dans la richesse comme dans la pauvreté. Donc ça, c'est Philippiens, la lettre aux Philippiens, chapitre 4. J'ai appris à me contenter dans l'état où je me trouve. Je sais vivre pauvrement, je sais vivre aussi dans l'abondance. Donc mon humeur spirituelle, psychologique aussi, ne dépend plus des conditions dans lesquelles je suis, et tout concourt à me faire avancer. Dans la tentation, eh bien, je m'exerce au combat, je progresse dans l'humilité. Quand tout va bien, eh bien, je surabonde de joie, de louange. Dans tous les cas, je me rapproche de Dieu. Alors l'image est très intéressante parce que si vous regardez l'échangeur de monnaie, il fallait discerner les fausses pièces et les vraies. Donc c'était où. À droite les bonnes, à gauche les mauvaises. Où. L'image de la voie royale, c'était ne s'écarter ni à droite ni à gauche. Hein. Ni. Tandis qu'ici, c'est la main droite et la main gauche. Le moine parfait, celui qui est vraiment au bout de arriver dans l'union à Dieu, eh bien, il sait vivre et de la main droite et de la main gauche. C'est plus ou, ni, c'est et. Vous voyez, ça se complète, hein, toutes ces images, mais ça montre une progression jusqu'à ce que le moine puisse à son tour partager cette paix, cette liberté intérieure dans laquelle il est établi, pour que d'autres plus jeunes, d'autres novices puissent entrer à leur tour dans les voies de Dieu. Donc la paternité spirituelle apparaît vraiment comme le couronnement de la vie du moine, hein, la période de sa, où il va pouvoir recueillir tous les fruits et se donner à ses frères dans un nouveau service de charité fraternelle. Et ça, c'est, quand vous lisez la vie d'Antoine écrite par Athanase, on voit très bien, c'est la dernière période de la vie d'Antoine, alors qu'avant il était barricadé dans son fortin, parce que c'était la période du combat, et qu'il n'accueillait aucun de ceux qui voulaient venir auprès de lui, il était barricadé. Et bien voilà que tout d'un coup, Antoine, enfin peut-être pas tout d'un coup, mais dernière période de sa vie, et bien Antoine laisse venir à lui ceux qui viennent chercher une parole de conseil, une parole de consolation. Des disciples s'installent autour de lui, et Athanase nous décrit cette dernière période de la vie d'Antoine comme une sorte de petit paysage paradisiaque. Vous voyez, Antoine est là avec une petite source limpide au pied de son ermitage, des palmiers, les bêtes sauvages qui dévoraient ses petits légumes viennent maintenant manger dans sa main et lui obéir. Mais c'est l'image de l'homme restauré dans sa vocation originelle, à dominer sur la création, à dominer sur les animaux. C'est l'homme parfaitement lui-même dans la grâce de Dieu. Et là, Antoine laisse des disciples le rejoindre, des hommes éprouvés venir mendier un conseil, une guérison, une consolation, et il est père pour tous. Donc c'est comme l'accomplissement de ces longues années de solitude, où maintenant, eh bien, il n'a même plus à préserver cette solitude, parce que qu'il soit dans la solitude ou dans la foule, il est uni à Dieu, hein, la main droite et la main gauche. Et donc je terminerai là-dessus, c'est une très belle lumière sur le véritable sens, hein, de cette vie au désert. Ça n'est pas une fuite du monde par mépris du monde ou par indifférence à l'égard du sort de ses frères. C'est au contraire un acte, alors on pourrait même dire, c'est l'œuvre ecclésiastique par excellence, c'est un acte ecclésial. Cette vie que les moines vont vivre dans la solitude du désert, c'est une vie qui sert le mystère de l'Église. Pourquoi ? Parce parce que dans son propre combat spirituel, le moine fait progresser le règne du Christ dans son propre cœur. Il va débusquer le démon chez lui en partant au désert. Hein, donc c'est un combat qui a ce combat spirituel, il a même une dimension cosmique. Et puis surtout, quand il est établi en Dieu et qu'il devient père pour ses frères, père spirituel, eh bien il accomplit un service de charité fraternelle pour toute l'Église. Donc la vocation monastique est une vocation ecclésiale, où finalement, vous voyez, on n'est plus tenté d'opposer la contemplation et les œuvres, ou la solitude et la charité fraternelle, mais l'accomplissement plénier de cette vie de solitude et de contemplation, c'est une fécondité pour le service de l'Église et pour tous les hommes éprouvés qui viennent trouver le Père là-bas, l'Ancien. Hein. Voilà, donc je vous laisserai aussi lire la description qu'Athanase fait d'Antoine dans cette dernière période de sa vie, hein, en montrant à quel point il est un père pour tous. Personne ne venait à lui sans trouver le conseil, la parole qui relève, le sourire qui réconforte, la guérison du corps comme celle du cœur. Et ce moine qui avait déserter la compagnie des hommes se retrouve finalement au cœur d'une foule de disciples pour lesquels il se donne comme un père à chacun en parole et en acte. Hein. Il se révèle, puisque c'est ça le père du désert là-bas, c'est celui qui est puissant, exactement comme on décrivait l'action de Jésus dans l'Évangile, hein, puissant en parole et en œuvre. Hein. Donc Antoine, c'est celui qui est puissant par sa parole de discernement, de consolation, en particulier avec ce charisme de cardiognosie, hein, de connaissance des cœurs, qui fait qu'il a pour chacun la parole qui convient, et puis puissant en acte. Alors parfois ça va même jusqu'à la guérison physique, le miracle, hein, thaumaturge, on sait la place de la thaumaturgie dans les premiers siècles, mais parfois c'est pas une guérison physique, c'est simplement que le moine est tellement pneumatophore, hein, habité par l'esprit, que son simple contact transforme la vie de celui qui vient le visiter. Hein. On ne vient pas voir un saint ou un homme vraiment habité par l'esprit sans être changé à son contact. Hein. Et donc Athanase, voilà, raconte que personne ne venait à Antoine sans en être soit réconforté, soit trouver le conseil qu'il lui fallait pour poser le bon choix. Soit transformé ne serait-ce que par le rayonnement qui émanait de lui. Voilà. Je vous laisse. Et donc, jeudi prochain, nous regarderons Grégoire de Nice. Ceux qui voudraient lire des textes de Grégoire de Nice, vous aurez les références exactes la semaine prochaine, mais je vous mentionne trois œuvres importantes. La vie de Moïse. Voilà. Les sermons sur le cantique des cantiques et le troisième échappe, des sermons sur les béatitudes. Voilà, donc si vous trouvez un de ces livres, n'hésitez pas à regarder déjà un petit peu d'ici jeudi prochain.